These are the times that try men foes. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la radio Béton, sur le 93.6, c'est mardi 18h, c'est l'heure de Déo et débat tous les mardis de 18h à 19h et le samedi de 12h à 13h. Alors aujourd'hui une émission un petit peu particulière, je suis un peu stressé parce que c'est de la visio, hein. Vous comprendrez tout à l'heure quand vous comprendrez qui sont les invités. Samedi dernier, qu'est-ce qu'on a fait? Déo et débat était avec les matelots du bateau ivre pour parler de la levée de fonds en cours. Aujourd'hui on reparle du bateau, hein. Acheter des parts c'est bien. Mais aller au bateau ivre, c'est pas que c'est mieux, mais c'est bien aussi. Voilà. Et la prochaine soirée que je vous recommande, c'est celle de samedi prochain, samedi 27 janvier, avec un beau programme de spectacles que Brice, le programmateur du bateau ivre, a pu découvrir au festival Chalon dans la rue, édition 2023. En revenant de Chalon, il n'avait qu'une seule idée, programmer ces deux spectacles au bateau. Ce sera donc chose faite ce samedi. On débutera la soirée avec l'ANPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Pour les initiés, l'ANPU était venue en 2008, je crois, à l'invitation du festival Rayon Frais et du Polo pour présenter l'analyse psychanalytique de la ville de Tours. On reçoit aujourd'hui Laurent Petit, The Master of Ceremony. Bonjour.
Bonjour à tous.
Fais-nous une présentation rapide de ce que c'est que la psychanalyse urbaine.
Alors, c'est une science poétique, on va dire, qui a été inventée pour essayer de psychanalyser les villes, comme si c'était des êtres à part entière. Donc le principe, c'est de les installer sur un divan et de les faire parler pour essayer de détecter les névroses. Et par rapport à la psychanalyse classique, disons que la psychanalyse urbaine propose des treatments, ce qu'on appelle des treatments, des traitements urbains pour essayer de guérir les névroses de la ville et pour que la ville parvienne à son plein épanouissement d'ici 2060, 2050, si tout se passe bien.
Un beau programme, mais donc mais parce que là, tu t'es lancé dans la World Analysis. Hein. Est-ce que ça veut dire que la psychanalyse des villes, c'est fini, c'est trop petit pour toi?
Alors, sur la route, là, le projet dure depuis 15 ans. On a psychanalysé une centaine de territoires, hein, des grandes villes, des petites villes, des villes à l'étranger. Mais l'objectif final, c'est effectivement de psychanalyser le monde entier. Alors au début, on pensait y arriver en 5 ans. Finalement, on a fait un plan biquinquennal, soi-disant. Donc là, on est sur 15 ans. On arrive à quelques pistes de résultats, de traitements globaux. Et sur la route, quand même, on reçoit encore des commandes, là, comme récemment, mais ça reste un secret, bien sûr, pour l'instant. La ville de Verdun, qui semble intéressée par une psychanalyse. Ça serait très émouvant, parce que c'est une ville vraiment très intéressante au niveau historique.
Et les prochaines dates de présentation de ville, tu en as bientôt là?
Alors figurez-vous que dans 15 jours, on va travailler sur l'ex-empire colonial français. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un concept où la France a colonisé beaucoup de pays, hein, beaucoup de pays, beaucoup de contrées durant plusieurs siècles. Et là, on va psychanalyser l'ex-empire colonial français dans le cadre d'un événement organisé au Palais de la Porte Dorée, le musée de l'immigration à Paris. Donc c'est un sujet vraiment très difficile, un peu tabou, et bon, on n'emmène pas large. Et puis sur la route, qu'est-ce qu'on a comme projet? On travaille aussi, a priori, on va travailler sur l'estuaire de la Gironde, mais au niveau de la montée des eaux, sur la politique culturelle dans les centres culturels de Belgique, Wallonie, c'est très pointu. Et on a ainsi comme ça des commandes assez, assez étranges qui arrivent régulièrement.
Mais finalement, les névroses des villes, celles de Tours par exemple, hein, sont moins importantes que celles de notre bonne vieille terre.
Eh ben, c'est-à-dire que bon, Tours, c'est une ville qui est plutôt bon, qui est pas forcément trop dépressive, hein, même si il y a beaucoup de gens dépressifs qui y habitent. C'est normal. Mais quand même, c'est une ville plutôt joyeuse et donc elle est pas trop attaquée, tandis que le monde entier, bon, il est pas forcément dépressif, il est plutôt dans une sorte d'hystérie complète au point de basculer un peu dans un aspect psychotique qui va consister à détruire son environnement. C'est comme si on devenait tellement dingue qu'on se mettait à brûler notre maison. Et donc là, on essaye de trouver des moyens pour apaiser le monde entier, pour qu'il essaye de se calmer, qu'il commence plutôt à réparer sa maison qu'à y mettre le feu.
Alors pour analyser le monde, tu repars du tout début de l'histoire de la vie.
Oui, on attaque ça. Alors, comment on attaque? On attaque plutôt l'histoire du monde entier par la présence humaine qui est en train de faire énormément de dégâts, et aussi par l'invention du feu. L'invention du feu, parce que la maîtrise du feu, je veux dire, qui a permis à l'homme donc de mieux mastiquer les aliments. Et donc de voir la taille de sa mâchoire divisée par trois, donc la taille du cerveau a été multipliée par trois, et donc on s'est mis à inventer toutes sortes d'outils et toutes sortes de systèmes pour commencer à maîtriser la nature et peu à peu la détruire.
Donc ça fait quoi en termes de période ça? On est en moins combien là?
Là, on est vers moins 400 000 avant Jésus-Christ. Après, on passe par la révolution néolithique, la mise en place de l'esclavage, et après, on remonte comme ça l'histoire jusqu'à aujourd'hui et après-demain.
Parce que toutes les auditrices et les auditeurs aussi, parce qu'il y en a aussi qui l'ont lu, mais il y avait un célèbre bouquin, Tout se joue avant 6 ans. Alors pour l'humanité, c'est toujours avant combien de milliers d'années là? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette grande aventure qui semble courir à sa fin?
Ah ben avec le recul, peut-être ça va être l'invention de la machine à vapeur, le début de l'extraction des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole, etc., qui commence à lancer le réchauffement de la climatique. Donc là, je ne vous apprends rien. Donc il y a toutes sortes d'inventions technologiques qui étaient vraiment bien pensées, c'est sûr, mais qui au final sont en train de provoquer énormément de dégâts. Donc, comment faire pour arrêter le progrès? Comment faire pour finalement essayer de plus rien faire, de plus bouger, pour essayer d'économiser l'énergie et les ressources? C'est encore des questions qu'on se pose aujourd'hui et qu'on va essayer d'éclaircir d'ici samedi prochain, d'ailleurs, parce on va présenter une partie des résultats au bateau Yves.
Ça veut dire que l'ANPU est un adepte de la théorie fumeuse de l'Anthropocène, c'est ça?
Ah ouais, hein, quand même, ouais, c'est vrai que on y croit. Enfin, on se base quand même là-dessus.
Bon, alors, est-ce que c'est grave, docteur? Parce qu'en cette période où fleurissent donc les mouvements de survivalistes, de collapsologues entre guerre et réchauffement climatique, c'est foutu ou bien où il y a encore un petit peu d'espoir?
Bah, paradoxalement, on est à la fois en danger de mort, mais possède des outils incroyables pour comprendre ce qu'on est en train de traverser. Donc c'est très paradoxal. Et peut-être qu'il va surgir une illumination collective qui va peut-être nous sortir de l'impasse. Donc c'est ce qu'on cherche d'ailleurs, autant à l'ANPU qu'avec le cabaret philosophique. Hein. Je ne vais peut-être pas présenter ce spectacle, mais c'est aussi la veine de la revue Il est déjà trop tard, auquel le cabaret philosophique collabore depuis l'origine et qui cherche aussi des moyens de se sortir de cette crise avant qu'il ne soit trop tard.
Quelle méthode utilises-tu pour tirer des bords justement sur l'avenir? Parce que tu présentes quand même non pas des solutions, mais en tout cas des projections possibles.
Bah, j'ai un collègue que je consulte régulièrement, Olaf Nicht, un astrophysicien du quotidien qui a une bonne connaissance de la littérature en science-fiction, donc qui nous aide à nous projeter vers l'avenir. On consulte des marabouts, des guérisseurs, des alchimistes. On essaie d'aller vers des visions, comment dire, hallucinées. De l'avenir ou du présent pour essayer d'y trouver matière à espérer et matière à bâtir un monde alternatif ou d'autres solutions que foncer tout droit dans le mur en hurlant.
Alors, je t'avais demandé de choisir une pause musicale et tu m'as choisi The Cure. C'est toujours dans l'idée de guérir l'humanité?
Oui, The Cure, bon, ça veut dire, je pense, le traitement, hein, treatment en français. Bon, un peu, c'est une musique un peu adolescente, un peu dépressive, justement, à la fois dépressive avec un regard sur le monde un peu noir, mais aussi gonflé ou gonflant d'énergie dans certains des morceaux, je pense Forest ou Push, quelque part dans des moments justement où j'étais accablé face à l'état du monde, ou face à la masse d'informations qu'il fallait traiter pour comprendre et psychanalyser une ville. Moi, je mettais Push pour me pousser vers l'avant.
Eh bien, maître, je vous remercie bien pour ces quelques minutes d'introduction à la World Analysis présentée par l'ANPU. Ce sera samedi prochain, 27 27 janvier, ce sera au Batoui, rue Vévéon, donc sur tes bons conseils. On va donc faire une petite première pause musicale et on va écouter The Cure avec Push.
Of our nation's history, the people of
Eh bien, on est de retour sur les ondes de la Radio Béton, sur le 93.6, des hauts débats spécial soirée du 27 janvier. La deuxième partie, on a écouté Laurent Petit, notre psychanalyste urbain. Maintenant, on va parler un petit peu du cabaret philosophique que nous recevons, un cabaret composé de trois éminents philosophes. Et peut-être que le mieux serait de commencer par... qu'ils se présentent eux-mêmes parce qu'ils ont des choses à nous dire sur leur parcours. Et voilà. On commence par qui ? Peut-être par Stéphane ?
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, donc Stéphane Giblot, animateur, je dirais modérateur de ce cabaret philosophique. J'essaie, au travers de mon rôle, de faire en sorte que la discussion, le débat puisse naître entre mes deux invités, Daniel Spunk-Data-Hunter et Roland Gerbier. En gros, voilà la définition, somme toute un peu prime sautière, un peu légère. Je ne suis pas plus engagé que ça, je ne suis pas rentré dans les détails, mais voilà, je pense qu'il faut toujours commencer par une explication un peu large, et puis après on pourra rentrer dans les détails par la suite.
Roland Gerbier, peut-être maintenant ?
Écoutez, moi, j'ai rejoint l'équipe du cabaret philosophique à la demande de Stéphane Giblot, que j'avais eu en consultation dans mon cabinet d'onolopédiatrie où j'étudie les effets du vin rouge sur les nourrissons. Il était venu avec son enfant et j'avais eu l'occasion de le soigner. On avait sympathisé, on avait pratiqué ensemble le cyclisme. On a fait quelques sorties en famille. Et puis, il m'a invité à des débats et j'y ai pris goût peu à peu, même si au début, j'étais intimidé par la pertinence des propos et la profondeur des débats qui m'ont parfois donné le vertige. Mais peu à peu, j'ai essayé de suivre le mouvement. Et c'est une aventure donc, qui dure depuis 20 ans où à la fois, je me suis épanoui et à la fois, on a relevé tout un tas de défis qui me laissent encore 20 ans après des larmes dans les yeux.
Mais votre spécialité, j'ai pas bien compris, c'est quoi ?
L'onolopédiatrie, c'est une technique qui permet d'étudier les effets du vin rouge sur les nourrissons. Et donc, on essaie de trouver des alternatives avec l'hypnose, le sport de combat, des comptines en allemand, etc., pour essayer de sortir l'enfant de l'ivresse que parfois des parents négligents infligent à leurs enfants.
Voilà. Et on finit, enfin, façon de parler, avec Daniel Spunk-Data-Hunter, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, tout à fait, c'est Daniel Spunk-Data-Hunter. Moi, on pourrait dire que je suis la troisième roue du carrosse, j'ai pris le bâton de pèlerin de la philosophie en marche, puisque lors d'une cérémonie druidique qu'ils organisaient dans la forêt de Brocéliande, ils m'ont trouvé, alors que j'étais en fugue, j'avais 15 ans. Et depuis, à leur contact, à force de lire, à force de penser, d'avoir toujours devant moi des concepts difficiles à appréhender, puis de ne pas comprendre, puis en cherchant, finalement, j'arrive pas encore à leur niveau, mais disons que j'en arrive à avoir la chance de partager ma salive avec eux.
À titre personnel, j'aime beaucoup la métaphore de cette troisième roue du carrosse. Moi, si je devais me catégoriser dans cette métaphore automobilistique, je dirais que je serais plutôt l'amortisseur, voire parfois le frein. Mais pas attention, pas le frein à main, car le frein à main risquerait de faire un dérapage. C'est souvent ce qu'on utilise pour faire le dérapage. Je suis plutôt une sorte d'ABS, voire parfois un airbag.
Moi je me trouve modeste, Stéphane, parce que moi, j'aurais plutôt envie de parler d'une sorte de roue de secours de l'humanité que vous seriez à vous tout seul, et peut-être entre nous, ça reste entre nous, je vous ai souvent considéré comme un gourou de secours, si je peux me permettre cette facétie.
Bien sûr.
L'ampleur de votre pensée est capable aujourd'hui d'éclairer le monde, un monde qui est menacé par l'obscurantisme, on le sait.
Mais je trouve que à la fois vous êtes l'amortisseur et à la fois vous êtes la roue de secours, mais je trouve qu'aussi vous êtes les phares. Parce que c'est vrai que vous éclairez la route, alors faiblement bien sûr, parce que c'est très difficile de savoir ce qui va se passer dans peu de temps. Mais tout de même, j'ai vu quelquefois sur le visage de nos auditeurs ou de nos spectateurs, des gens qui retrouvaient espoir, tout simplement. Vous êtes comme un soleil qui se lèverait sur l'horizon, finalement, mais à partir d'une voiture.
Je suis très ému parce que ce que j'entends, ça me fait vraiment plaisir. Et on m'a jamais dit des choses comme ça. Et j'ai vraiment une belle émotion qui me traverse le corps, qui me traverse à la fois l'esprit. Et c'est vraiment très agréable, voilà, d'entendre des choses comme ça et réconfortant.
Et moi, enfin, comme j'ai donné ce compliment, pardon, je vous laisse, Roland. Ben, le plaisir d'offrir, enfin, je suis. C'est pareil, c'est comme si vous voulez, tout mon être était sorti de ma bouche et que toutes mes entrailles. Enfin, tout ça en plaisir, hein, je veux dire, le prenez pas comme une douleur, comme si tous mes organes étaient sortis par ma bouche et que je n'étais plus qu'un poulpe nageant dans l'océan de votre univers.
Et j'en profite pour dire que dans ce carrosse, qui est donc ce carrosse à cinq roues, qui est donc le cabaret philosophique, j'ai l'impression, Daniel, que vous êtes un peu notre rétroviseur. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à regarder vers le passé, vers l'histoire, vers la physique des matériaux, la biologie mimétique. Et c'est ces éclairages du passé qui nous font aller de l'avant, même si parfois on a perdu nos cheveux, bien sûr, mais surtout nos chevaux sur la route.
Je voudrais plutôt parler, enfin, même si c'est effectivement un rétroviseur, mais ce serait un rétroviseur amovible qui regarderait, qui si vous voulez, sa direction est un peu chaotique, ce qui fait qu'on ne sait plus si on regarde l'avenir et le futur. Voire, j'ai envie de parler d'un rétroviseur hélicoïdal, ou même fractal, ce qui fait que au bout d'un moment,
pour
peut-être.
Moi, ouais, si je peux me permettre,
pardon,
il y a ce côté multifacette, ce côté boule à facettes que vous avez. Ce côté.
Ça n'a pas un rapport avec le fait que je sois chauve.
Non, ça n'a rien à voir.
Pas du tout.
Et ce côté, je réfléchis dans tous les sens. C'est cette boule à facettes que vous êtes. Vous réfléchissez dans tous les sens. Vous êtes capable de d'éclater la pensée, de défragmenter la lumière et d'une certaine manière d'être une licorne, parce que vous créez un arc-en-ciel sans vous en rendre.
C'est merveilleux. Et moi, j'ai l'impression, parfois, Stéphane, vous avez cette capacité à être un peu le fouet du cocher qui nous fait avancer. Et Daniel, on le sait, bon, ça reste entre nous, bien sûr, a toujours adoré se faire fouetter.
Alors,
flageller.
Moi,
vous avez répondu à le désir.
Je trouve que je suis fougueux, quand même.
Fait la force.
J'aime me faire fouetter, certes, mais je trouve que quand même je suis fougueux. Enfin, je veux pas forcément me mettre en avant. Mais...
Moi, j'étais l'autre jour, je suis allé à une rencontre dans un club sadomasochiste et j'avais justement eu la chance d'avoir un fouet dans les mains. Et je me suis dit, bah, si Daniel il serait là, je pense qu'il aimerait bien être fouetté parce que c'est quelqu'un de fougueux. Voilà. Donc ça rejoint.
Moi, souvent, je vais dans des soirées sadomasochistes aussi pour réfléchir, mais des sadomasochistes, en fait, c'est des sortes de soirées de sadomasochisme et intellectuels, et c'est des philosophes qui croient, par exemple, en Kant, et autour de lui, tout le monde dénigre Kant. Et c'est vraiment très agréable. On se sent rien, on n'est plus rien. On a l'impression qu'on nous pisse dessus. On n'est plus qu'un bac à urine. C'est vraiment agréable.
Alors moi, je ne suis pas allé justement pour aller souffrir, mais pour être dans une recherche de la douleur, du plaisir d'offrir la douleur, ce qui va un peu à l'encontre de notre travail. Et j'ai essayé de trouver au travers de cet acte de fouetter une sorte de comment dirais-je,
le catharsis.
Oui, une sorte de catharsis, une sorte de, une matière de rentrer à l'intérieur de soi-même, d'être. Je pense souvent au bulot, vous voyez. Je pense souvent au bulot et à cette hélicoïdalité qui est à l'intérieur. Et ce côté, je rentre, je sors, c'est voilà. Je suis un peu là-dedans.
Mais je trouve que ça va mieux quand même parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été enfermé pour coups et blessures. Je trouve que vous arrivez quand même pas mal. Grâce à la philosophie, j'imagine, à faire que cette agressivité se lisse un petit peu.
Voilà.
Roland.
Bah écoutez, je suis toujours ému de vous entendre. Moi, je pense aussi à Heidegger, qui nous a beaucoup aidés sur la route. J'avais préparé un texte de Heidegger que j'ai malheureusement égaré, mais je pense que de mémoire, vous devez le connaître, Daniel. C'est un texte qui vous a inspiré dans
Ça
votre
commence pas
travail de gibopoétrie.
par
Gibopoétrie, excusez-moi. Et c'est l'être qui rencontre le néant et qui, au lieu
Ichvach,
de se perdre dedans,
Shen.
finalement, arrive à le soulever. Et derrière le néant, il trouve l'entrée d'un monde merveilleux. Et je crois qu'en gibopoétrie, vous l'avez mis
Ah, vous voulez parler du célèbre poème de comment
Noël
R. Hounz,
d'Alsace, oui, Noël.
sur le coq de Bruyère.
Voilà, c'est ça.
Oui, le poème qui commence par Erz,
Erz,
Unsend, Ur,
Ours.
coq de bruyère. Voilà.
Ô coq de Bruyère. Alors, je ne l'ai pas vraiment de mémoire comme ça. Enfin, je vais essayer de m'en souvenir.
Coq
Coq, coq,
de
coq, coq
bruyère.
de
Vous commencez
Bruyère. Coq, coq, coq,
coq,
coq,
coq, coq,
coq,
je me souviens de
coq,
ça.
de Bruyère. Toi qui posais sur la branche. Alors, juste pour expliquer, c'est un mouvement révolutionnaire de chasseurs du 18e siècle en Bavière qui se prend d'amour de la poésie de la chasse.
Voilà,
Ô
exact.
coq de bruyère, toi posé sur cette branche lourde, 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 oh, comme elle est lourde. Et soudain, on entend des taillis, la détonation, qui détonne le silence. Et cette détonation jaillit de ton cou et tu saignes. Et tu exploses, ô coq, et tu tombes, tombes, tombes. Et tu es mort. Voilà, enfin, faut se remettre dans le contexte. C'est vrai, c'est sûr que là. Ça paraît un peu brut de brut, je trouve.
Oui, c'est super. Moi, ça me donne envie vraiment de... Vous voyez, quand j'entends ces choses, ce genre de poème, ça donne... Et je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas de... Je vous jure, je ne suis pas comme ça. Mais ça donne envie de déposer plainte. J'ai envie d'aller dans la gendarmerie et j'ai envie d'aller porter plainte. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui, mais j'ai envie de dénoncer des choses, de dire, ben voilà, il y a ça qui ne va pas,
Bah
il y a ça qui...
allez-y alors, allez-y.
Je ne suis pas comme
Bonjour,
ça.
bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que
C'est
vous
juste le
voulez?
principe de dire, voilà, j'ai envie d'aller voir, d'arrêter le premier agent de police ou de la loi.
Non, mais si vous voulez, je peux faire l'agent de police. Je peux faire
Je
un agent de
connais,
police.
il y a des choses qui ne se va pas, j'ai des noms dans j'ai des noms à donner, tout ça. J'ai envie de faire ça parce que ce
Je comprends.
poème invite à la révolte et invite aussi à la responsabilité.
Très
Et
bien.
aujourd'hui, porter plainte peut être aussi une forme de prise de responsabilité. Je m'engage en disant ça, j'entends bien que ça ne peut pas être entendu par tout le monde et que je suis un peu touchy, comme on dit, mais voilà.
Peut-être pour les gens qui nous écouteraient, peut-être ressentons peut-être le
J'ai envie
débat
d'acheter
sur
une
le.
voiture de police. J'ai envie d'acheter une voiture de police et de faire des patrouilles. Voilà, j'ai envie de
Ben des
patrouiller.
patrouilles, oui. Ben des patrouilles philosophiques, c'est quand même un concept qui serait intéressant de développer
Bien
pour
sûr, dans
essayer
les bars, et bien sûr.
d'initier les gens aussi, de les contrôler philosophiquement pour les amener vers le chemin peut-être de l'épanouissement.
Vous avez votre livre de Heidegger, ou alors, oui, dans les bars et contrôler les conversations, enfin, faire des patrouilles de conversation, et dès que la conversation devient trop insipide, arriver avec un nouveau sujet, au lieu d'être peut-être plus être au lieu d'être dans la répression, être plus dans la.
La proposition,
D'encourager
une
les gens
force de
dans des nouveaux
proposition, ouais.
des débats. Et toi, est-ce que tu vas mourir dans pas longtemps, peut-être? Alors qu'avant, enfin, je sais pas, je dis ça.
Voilà, peut-être vous avez d'autres questions peut-être à nous poser. Loin de nous l'idée, Pascal,
De
de
monopoliser. Ben
monopoliser la
oui.
parole
On est anti-monopole.
et de créer cette parole. Peut-être il y a d'autres questions que les auditeurs ont envie de savoir, envie de connaître.
La première, c'est peut-être, est-ce que c'est philosopher, c'est pour rire ou pour changer le monde?
Alors,
Alors.
peut-être que pour s'y retrouver, il faut savoir qu'on a été inspiré par un certain Raymond Lebrun, donc peut-être Daniel va revenir là-dessus, mais aussi par les penseurs présocratiques, hein, c'est-à-dire des penseurs qui sillonnaient les rues en toge. C'était souvent mal habillés, ils vivaient dans des tonneaux, mais ils étaient là pour quelque part réveiller les foules en combinant à la fois la philosophie, mais aussi la poésie et aussi... des embryons scientifiques, parce qu'à l'époque, on ne savait même pas compter jusqu'à 10, mais en tous les cas, il y a cette idée de secouer les gens par le savoir.
J'ai
Être
envie de
des
parler de
shakers,
phares. C'est
human
comme des
shakers.
phares, mais des phares avec des bras pour pouvoir secouer.
Voilà.
Il y a un phare qui est clair, donc qui montre où sont les rochers, où sont les dangers, mais en même temps qui secoue.
des phares qui seraient aussi reliés à une sorte de bouée de sauvetage qu'on s'attacherait autour du cou, mais qui serait, on aurait aussi un casque.
Et pour répondre à la
pour
question,
répondre,
juste pour dire.
De changer le monde, je ne pense pas qu'il y ait encore, en tout cas, personnellement, il n'y a pas une volonté de changer le monde. Ça voudrait dire avoir déjà une idée du monde du futur. Et je pense que ce serait un peu audacieux et un peu, comment dire, un peu trop directif de dire, voilà, on voudrait que ce soit comme ça, comme ça. On est plutôt des accompagnateurs. On fait en sorte que
Des
nous
animateurs.
sommes un peu des fluidifiants, nous. Je fais souvent de réponse à l'aspégique qui permet de fluidifier le sang en cas de maladie. Je dirais qu'on est des aspégiques de la pensée. On est parfois, oui, des fois, on est un peu de l'ibuprofène, mais on reste quand même des fluidifiants. On est là pour accompagner un mouvement, pour accompagner l'histoire aussi, très modestement, bien sûr, hein.
Mais je pense que
Et loin
Pascal,
de nous.
quand il nous pose cette question-là, je crois que c'est parce qu'il a mal interprété l'hyperpoésie. Parce qu'on utilise une façon de communiquer. Alors, la plupart du temps, par le son, mais quelquefois aussi directement par la pensée ou par les gestes, ou des fois juste avec les mains ou même avec les ongles. Disons que l'hyperpoésie, on l'a appelée comme ça, c'est une forme de langage qui permet d'aller directement au fond au fond du cortex du premier compte. Enfin, Roland saura mieux l'expliquer que moi. Mais allez-y, Roland.
La première couche sémantique qui se retrouve au bas du cerveau et qu'on peut titiller avec des phrases bien senties, ce qui permet
C'est
de
ça.
créer une sorte de réaction quasiment chimique dans l'ensemble du cerveau qui se met à fumer généralement, mais c'est dans cette fumée qu'on voit sortir des concepts qui vont pouvoir transformer la vie des gens, voire vont un peu transformer la vie de l'ensemble de la société. C'est un peu cet endroit sédimental qui se trouve au bas du cou qu'on essaye de réveiller à chaque fois.
C'est pas le cerveau reptilien, c'est avant, c'est le cerveau du ver de terre.
C'est quasiment le cerveau
Le minéralien.
minéralien
Ok.
qui s'est
D'accord.
retrouvé dans l'âme de la matière avant l'apparition de la vie, on peut le
D'accord.
dire.
Alors sinon, j'ai une question d'une auditrice qui est en train de remplir ce fameux dossier post-bac dont on entend parler et qui se demande, mais en fait, ces trois philosophes, prétendus philosophes, mais quelles notes ont-ils eues au bac de philo?
Alors moi, il y a des choses, je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Je ne suis pas là pour me mettre en avant. Je pense que ce serait un peu présomptueux de dire, voilà, j'ai eu telle ou telle note. Même si c'est un 11 par rapport à quelqu'un qui aurait eu un 10 et demi, ce serait me mettre en avant et par rapport à une règle qui n'a pas été édictée au départ. Donc je vais rester très discret là-dessus sur cette histoire de notation. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je trouve ça un peu présomptueux et ce serait une forme de manque de modestie. Et je pense que la pensée se doit d'être avant tout force d'humilité. Après, vous pouvez dire vos notes, moi ça ne me dérange pas, mais voilà.
Moi j'ai eu 7, mais j'étais pas encore, je vous connaissais pas encore. Mais est-ce qu'on est des génies? C'est ça, est-ce qu'on est des génies? Ouais, je pense qu'on est des génies dans un sens. Enfin, chacun, enfin, même si c'est des génies départementales, ou même c'est des génies au niveau du canton, un peu des génies, enfin, je trouve. Je sais pas si c'est important de dire ça. Peut-être c'est pas le moment de dire ça, peut-être c'est trop violent.
Je pense qu'il faudrait faire ça. Il faudrait commencer déjà l'histoire de départementaliser. Il faudrait déjà faire un travail sur la Creuse, par exemple, et te dire est-ce qu'on est des génies de la Creuse? Ensuite, se dire est-ce qu'on est des génies de la Nièvre? Et là, on pourrait dire déjà donc la Nièvre, c'est le 56 ou le 58, la Creuse, c'est le 27. Donc voilà, on se dit bon ben voilà, on avance comme ça. On peut pas dire comme ça, on est les génies de l'Indre-et-Loire ou de tel ou tel
Il
département,
faut y
ou
aller, ouais.
même
Il faut aller voir.
il faut qu'on fasse département par département, qu'on analyse, qu'on fasse des grilles de référence. Qu'est-ce que c'est qu'un génie aujourd'hui? Voilà, si on va sur souvent les génies, on voit souvent le cas des génies, par exemple le cas de Picasso, qui avait une vie sociale tout à fait délétère. Donc voilà, donc
Qui savait pas dessiner, surtout.
comment?
Qui
Et
savait pas
puis,
dessiner.
je savais pas très bien dessiner. Donc, il faut faire attention de cette idée. Si ça se trouve, on peut être très bon, par exemple, dans la Nièvre et se comporter comme des imbéciles dans la rue. être hautain et prétentieux en Indre-et-Loire.
Vous voulez dire qu'il y a peut-être un terrain pour philosopher? Il y a peut-être on serait peut-être plus spécialiste du terrain lourd, ou quand il pleut, on est peut-être plus à l'aise, ou je sais pas, je dis ça.
Je pense que la philosophie naît des grands espaces, du contact avec les hauteurs, et je pense notamment à l'Ardèche ou à l'Ariège, qui sont des
Là,
terres
c'est
qui.
clair. Bon, en Ardèche, en Ariège, oui, il n'y a pas de problème. Là, on est vraiment des génies. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème. Là, Ardèche, Ariège, là, vous me donnez deux départements. Là, ça, il n'y a pas de problème.
Vous
On
souvenez,
s'entend
c'était ouais, bien
bien.
sûr de.
Vraiment, dans l'entièreté, au niveau des connaissances, au niveau de la sociabilité, au niveau de la cuisine, au niveau des balades en forêt, tout ce qui est champignons. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est traire les vaches, il n'y a pas de problème. On peut faire du miel. On connaît tous enfin, moi, personnellement, hein, je connais les sortes d'abeilles qu'il y a dans les départements. Là, je suis vraiment inclassable, hein, vraiment.
Oui,
Si je vous dis Quillan, ben, il n'y a pas de problème. C'est dans l'Ardèche, quoi. Voilà, vous voyez comment c'est? Saint-Félicien, bam, bam, en Ardèche. Voilà. Il n'y a pas de problème. Nombre d'habitants, 13 000. OK, pas de problème. Là, tac, tac, combien de boulangeries? Je vous le dis, non, ouais, il n'y a pas de souci.
Alors, cette même auditrice, très angoissée par la philo, elle sait qu'il y a quand même plusieurs courants dans la philosophie, hein, et donc,
Bien sûr.
dans quel champ se situe le cabaret philosophique?
On a déjà répondu, hein, c'était les présocratiques.
Vous restez vraiment dans ce champ,
Bah, disons
tout ce
quoi.
qui est Kant et tout ça, là, c'est oublié?
Si, non, ça existe, et puis on l'utilise bien sûr. Alors, pas toujours. Alors, Kant, peut-être, il nous donne des clés à molette, on l'utilise comme marteau. Mais disons qu'on est présocratique dans le sens où on essaye de se placer avant la civilisation platonicienne. Platon, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, je pense que tout le monde est au courant. Platon, avec ses idées platoniques, platoniciennes, a inventé le monothéisme, enfin, le catholicisme, enfin, le chrétianisme, le
Bien
christianisme.
sûr.
Le christianisme, ensuite, a découlé sur quoi les
Le
autres, là,
protestantisme.
les
Le
protestantismes.
protestantisme,
Qu'est-ce qu'ont fait
bien sûr.
les protestants? Ben, ils ont inventé le commerce. Et de là, on en est dans le désastre qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire le capitalisme, et puis ensuite l'ultra-capitalisme. Donc évidemment, si on veut se sortir du marasme dans lequel la planète est en ce moment, c'est sûr qu'il faut se placer en moins quoi? Moins 600, moins 700.
Oui, on est sur du moins 600, du moins 700, avec vraiment l'idée de retrouver le chaos originel, de déplatoniser les masses et de se rapprocher vraiment d'Empédocle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était une figure majeure, après Socratique, qui s'est, à la fin, pour montrer l'exemple, quelque part, jeté dans l'intérieur d'un volcan. Et la légende raconte qu'il y a une sandale qui est ressortie et cette sandale, finalement, qui a montré le chemin. Enfin, la façon de marcher sur un pied sur le chemin du futur. Et ça, c'est un exemple sur lequel on revient souvent dans nos débats.
C'est pour ça qu'on s'oblige aussi à vivre sans outils, sans ordinateur, sans téléphone, sans montre, sans couteau,
Sans brosse à dents.
sans brosse à
Sans
dents.
brosse à dents.
Parce qu'à l'époque, les gens, ces gars-là, les présocratiques, étaient capables de calculer des choses incroyables sans rien, juste avec un bâton, un morceau de porc, et voilà, et puis du la feta, et là, hop, tac, la théorie, enfin, c'était fou, quoi. Donc on essaye de retrouver ça. Cette espèce de pauvreté, finalement, un peu
Simplicité.
comme des moines, j'ai envie de dire. On est un peu comme des
Bien
moines,
sûr.
dans un sens. Mais
Moi, vous me
des moines
donnez,
errants.
par exemple,
Comment?
vous me donnez effectivement 1 kilo de feta, vous me donnez 3 olives, vous me donnez un bâton de berger et vous me donnez un pot de moutarde et je peux faire un feu. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de briquet, je n'ai pas besoin de choses comme ça. Je peux allumer un feu avec 1 kilo de moutarde, un bâton de berger, je peux faire des choses comme ça.
Mais si par
Parce
exemple
que
j'ai un
je.
repas, si par exemple j'ai un repas pour 4 personnes demain midi, et que j'ai pas, j'ai quoi, j'ai 25 € en poche.
Moi, par exemple, je peux faire un repas avec 25 kilos de ciment, avec du sable, une bétonnière. Je peux faire un repas
On vous entend un peu
pour
moins là.
30 personnes avec ça.
Ah, d'accord.
Avec un peu, je suis capable. Je suis capable.
Je pense que Stéphane veut parler d'une sorte de béton originel qui réussirait à fabriquer avec de la feta, de l'huile d'olive, sans passer par tout ce qui est sable, gravier et ciment qui font énormément de dégâts. Pour quelque part chercher une matière originelle biodégradable. C'est un peu ça, Stéphane,
Moi, je trouve que on n'est pas très loin de la fin, il me semble, mais c'est une belle image, je trouve, le ciment. C'est ça qu'on va tenter de faire, il me semble, le 27 au bateau ivre. C'est grâce à l'huile d'olive, la délicate huile d'olive qui va essayer de jaillir de nos bouches, de faire en sorte que le public et nous-mêmes partagions une sorte de cohésion. Enfin, cohésion, pas forcément qu'on soit d'accord, mais. On soit ensemble, si vous voulez, dans une sorte de ciment, mais un ciment salivaire, et je pense que c'est ça que les gens recherchent en ce moment, quoi.
Alors, moi, je vous propose de faire quand même une petite pause musicale avant le troisième et dernier round de l'émission. On va s'écouter la chanson qui vous sert d'introduction, et puis on reviendra sur le sujet. C'est Klaus Nomi avec Cold Song.
Of our nation's history, the people of
rallied bravely whenever the rights of man have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Troisième et dernière partie de ce Déo et Débat consacré à la soirée du samedi prochain, samedi 27 janvier au Bateau Ivre. On est avec le cabaret philosophique, hein, avec Stéphane Giblot, Roland Gerbier et Daniel Sponk Datahunter. Alors, on vient d'écouter le morceau qui vous sert d'introduction, hein, Klaus Nomi, Cold Song. Alors, si on en croit Wikipédia, la Cold Song d'Henri Purcell est un hymne allégorique du pouvoir de l'amour à décongeler les cœurs et les âmes. Vous y croyez au pouvoir de l'amour, vous ?
Oui, évidemment, bien sûr. Ce serait un déni de ne pas croire au pouvoir de l'amour, bien sûr, et au pouvoir de la poésie, et au pouvoir de la musique et de la chanson.
Non, mais rien que le fait d'avoir été à un moment donné, complètement affalé sur sa mère comme ligne de mire, la tête complètement écrasée sur un sein, avec au milieu du sein cette espèce de petite goupille qui sert pour ingérer des aliments. Comment ne peut-on pas croire en l'amour du lait et puis après du reste qu'il y a autour, de la citerne, maman, et de finalement après du monde entier, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue, j'ai dit ça.
Et je dirais que toute l'histoire de la matière, les liaisons intra-atomiques, les liaisons moléculaires, c'est une histoire d'amour, de lien très fort entre des grains de matière qui finalement sous-tendent toute l'histoire du monde, de l'univers, du monde entier. Donc l'amour nous accompagne, même si ça nous énerve et qu'on trouve ça un peu sirupeux.
Je suis d'accord avec vous, Roland, mais quand là vous parlez de la gravitation et la formation des systèmes stellaires et des étoiles et de la Terre et tout. Mais attention, mettre un coup de fourche dans votre argument, mais il y a quand même l'énergie noire et le fait que ces derniers temps, tout de même, l'univers est en train de s'accroître de façon vertigineuse et même accélère son désamour. J'ai envie de dire, c'est ça part vraiment. Là, on ne sait plus. Là,
vous parlez souvent. Il y a le problème de la fin de l'amour, c'est la séparation. Finalement, on se sépare et on accélère la séparation pour plus voir. Mais c'est souvent la conséquence d'histoires d'amour qui sont souvent mal gérées, mal organisées.
Vous voulez parler de
c'est marrant, parce que moi, ça me fait vraiment penser à Céline Dion, tout ça, qui était, et de son histoire magnifique avec René De Angeli, qui l'aimait vraiment, non pas comme une fille, même s'il était un peu plus âgé qu'elle, mais comme une femme. Et elle adorait René. Elle pouvait pas, dans toutes les chansons, chaque fois qu'elle était sur scène, elle disait René, maman, René. Et même maintenant que René est parti, puisqu'il y a eu une séparation, mais ce n'est pas une séparation de divorce, c'est la séparation de la vie et de la mort, et bien encore, des fois, je pense qu'elle dit, mais René, si seulement René était là, et ça nous ferait ben du bien.
C'est comme un attachement, quoi. Comme un élastique, une espèce d'élastique, on ne verrait pas, finalement, une sorte d'élastique où on est attaché à quelqu'un. Et surtout quand elle dit, s'il suffisait d'aimer, s'il suffisait qu'on s'aime, je ferais de ce monde un monde d'éternité.
Oh, voilà. C'est beau comme du Céline. Du Céline Dion, bien sûr. Hein.
Bien sûr.
D'autres questions que vous avez envie de poser, Pascal ?
La philo, qui me paraît une espèce d'obsession des classes terminales, puisque c'est quand même, il faut bien le dire, c'est l'épreuve philosophique, c'est l'épreuve qui rebute tout le monde. Et donc, c'est pour ça que vous risquez d'avoir un public de jeunes boutonneux et boutonneuses qui vont vouloir téter à la source du savoir pour essayer de winner aux épreuves prochaines. Et donc, l'année dernière...
C'est marrant parce que moi, depuis quelque temps, j'ai fait une école supérieure de marketing parce que je me suis rendu compte que, effectivement, la philosophie ne nourrissait pas son homme. Et j'ai fait une école de business management. Et il faut savoir que pour tous ces jeunes, je fais des formations de 8 journées, voire d'une journée, à des tarifs assez raisonnables. Et si ça l'intéresse, je garantis, je garantis un minimum de 7 à l'épreuve de philo. Juste avec ces petites formations.
C'est
des formations très courtes. Et une fois qu'on a ces formations, on a un minimum 7 à l'épreuve de philo. Voilà. Après, il faut bosser un petit peu plus, on peut avoir la moyenne. Ça s'appelle le Club des Jaguars. Ça tourne autour de 150 € le module. Et on reçoit des goodies. Il y a un gobelet avec une tête de jaguar dessus pour dire je fais partie du club des jaguars. Il y a un t-shirt et il y a un numéro, dire je suis tel et tel numéro. Et c'est minimum 7. C'est 7 et c'est remboursé. S'il n'y a pas de 7, c'est remboursé, évidemment. Enfin, suivant, il y a toute une procédure à faire pour être remboursé. C'est pas. Voilà.
Moi, j'ai envie de dire aux jeunes gens qui nous écoutent, eh bien de surtout ne pas se décourager, d'attaquer cette épreuve comme peut-être la première marche d'un escalier qu'il faudra retrouver chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque heure pour creuser sa pensée, creuser les idées et ainsi parvenir à s'élever philosophiquement, spirituellement, pour voir les choses de haut, pour voir les choses avec plus d'ampleur, en creusant sans trou, sans l'aide de la philosophie. Je crois que la philosophie, c'est un escalier, c'est une échelle, ce sont des ailes qu'il faut se coudre sur le dos pour pouvoir voler de ses propres ailes.
Et puis ne pas avoir peur d'arriver peut-être un peu éméché à la séance de philo. Parce que souvent, un petit alcool, un petit. Alors, il ne faut pas être complètement ivre, hein, et puis il faut faire attention aux consommations d'alcool, mais être un petit peu éméché, tirer une petite latte sur. Ça peut aider à bien délirer, et au pire, si ça ne marche pas, ben, au moins on aura passé un bon moment.
Effectivement.
Plein de bons conseils, hein.
Moi, j'ai envie de dire, en plus. Enfin, évidemment, la philosophie va vous apprendre à être de plus en plus en doute par rapport à ce que vous êtes, votre existence, votre corps. C'est vrai qu'il n'est pas toujours très, très agréable à regarder. Et surtout, les relations un peu difficiles que vous avez avec votre parent, puis avec la société, et puis bon, vous allez finir gilet jaune. Et donc, toute cette philosophie va vous permettre de comprendre, enfin, d'essayer de comprendre ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Mais quand il s'agit du bac, pardonnez-moi, mais souvent, les professeurs sont issus de la philosophie des Lumières. Et Dieu sait si la philosophie des Lumières a fait des dégâts, surtout quand on pense aux technologies qu'elles ont inventées. Même s'il faut prendre, bien sûr, le cœur de cette philosophie, comme essayer de progresser, comprendre, essayer d'aller plus loin dans la compréhension. Mais cet amour irrésolu du progrès a fait que, évidemment, quand on étudie vraiment la philosophie, on regarde ce qui se passe en ce moment, évidemment, on se dit, bon, ils disent un peu n'importe quoi. Aussi, je pense, pour avoir son bac, il faut quand même avoir l'ambition de mentir un peu, de charmer ces gens qui sont du siècle des Lumières et de les caresser dans le sens de, enfin, dans un sens.
Eh bien, c'est quand même sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter parce que c'est pratiquement l'heure. Une petite question, si on est vraiment occupé samedi et qu'on va rater la soirée au bateau, est-ce qu'on peut revoir, enfin voir plus tard, un cabaret philosophique? Est-ce que Stéphane, quelqu'un a le calendrier en tête pour nous donner les prochaines dates?
Oui, mais bien sûr, il y a des opérations pensées qui vont avoir lieu en avril à Paris, du côté de Paris. Il va y avoir des opérations du côté du Jura. Il va y avoir des opérations, alors je ne sais plus vraiment.
À Laval.
Et voir à Laval également, bien sûr.
Bon, on mettra tout ça sur le site de Radio Béton. Je vous remercie tous les trois, mes chers philosophes, d'avoir bien enflammé les ondes du 93.6. On se quitte et on laisse la parole eh bien, à l'émission suivante du Blues. Sinon rien, bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Salut.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.